liberté, égalité, fraternité.
Une majorité de la société mise en esclavage.
Que l'argent public doit payer qu'une fois.
Et là, c'est la voix du peuple qui a parlé.
Revue de presse hebdomadaire.
2 de l'April.
So it is not just a free software problem.
Une volonté politique de prendre le contrôle du net.
Privatisation de ce bien commun.
Avec Luc et Manu.
Des mouchards dans nos ordinateurs.
Des coups de boutoir contre la neutralité du réseau.
Revue de presse de l'April, semaine 49 de l'année 2011. Pour cette semaine, Manu, tu nous as concocté une belle brochette d'articles, bien fournie.
Et oui, de bien beaux articles. Donc on va vous parler de WebOS, de Microsoft et de son store. On va parler de l'ACTA et de l'April, la propriété intellectuelle, il n'y a rien de tel. On va avoir l'affiche, essayer la liberté de l'April encore. Parler des migrations, alors point de vue du Québec, mais justement il parle un peu d'autre chose. De Polyspot et de son directeur génial. Et puis d'Algérie pour finir, parce que ça doit être le moment.
C'est la saison.
Exactement. Ouais. Alors, le premier article, 20minutes.fr, HP tente un coup de poker open source avec WebOS de Philippe Berry. WebOS, est-ce que ça te parle ?
Bah, pas trop, je sais plus trop ce que c'est.
C'est un système d'exploitation à la mode de Android ou de iOS, hein, le système d'Apple pour les téléphones. C'est destiné aux tablettes, voire même aux imprimantes éventuellement. On sait pas trop, et surtout, c'est que là, bah, c'est destiné à devenir open source.
Oui, donc c'est un truc que HP a fait. Donc HP s'était distingué il y a à peu près un an avec un directeur qui avait décidé d'arrêter toute la partie matérielle, ce qui lui a valu de se faire lourder par son conseil d'administration.
Bah oui, parce que là, ils sont un peu connus pour la qualité de leur matos. C'est rageant et en fait, ils avaient fait une grosse erreur de casting, hein, un coup de pied au cul, dehors, et ils essayent de rechanger leur stratégie et de se réorienter pour plaire. Hein. Mais WebOS, ça semblait être une perle un petit peu de leur attirail. Et là, ils la mettent en open source, mais ça a une furieuse odeur de mise au placard ou encore d'enterrement dans le cimetière. C'est un beau cimetière des éléphants, je sais pas.
Ça rappelle le sort de Symbian, donc un machin qui a priori était pas si mal, mais qui n'avait finalement qu'une communauté toute petite. Et c'est le problème de ces systèmes d'exploitation, c'est que iOS ou Android valent essentiellement par le nombre de développeurs qui font des applications pour ces systèmes d'exploitation. Et quand on se fatigue à faire une application, on veut la faire pour avoir un maximum d'utilisateurs. Donc le problème d'un petit système d'exploitation, même s'il est très très bon, et c'est que s'il n'y a pas beaucoup d'utilisateurs, personne ne veut développer, et si personne ne développe, ça n'attire pas les utilisateurs. Donc c'est
un effet de réseau. Voilà. C'est un effet de réseau qui est assez pernicieux. Ils en parlent bien dans l'article, hein, 20 minutes pour une fois, et là ils ont assez bien présenté l'idée. Ils parlent de Symbian, ils parlent de l'origine de WebOS qui vient de Palm, donc les Palm, hein, les Palm pilotes, hein, simplement. Donc il y a des bonnes choses, allez jeter un œil, moi je le recommande, il est pas mal.
Ouais, c'est court et bien fait.
Exactement.
Article suivant, donc Microsoft ouvre son Windows Store à l'open source, donc un article de Journal du Net, article de la rédaction. Donc en gros, Windows va mettre des stores, c'est ça, à ses fenêtres ?
Exactement, ça c'est pas beau ça, c'est ouais. Pas beau, franchement, ça va être magnifique. Le bâtiment va être à l'ombre. Non, et en fait, ils repiquent des vieilles solutions, hein. Debian le faisait depuis 10 ans au moins.
Au moins, oui.
Ouais, c'est d'avoir 15. Dépôt de paquets, de logiciels qu'on peut installer à distance avec une...
Depuis Internet.
Avec des commandes simples. Apple le fait sur ses téléphones, hein, depuis déjà un moment. Ils veulent le faire sur le Mac, je ne sais pas si c'est en place d'ailleurs. Hein. Et mais Windows, ils ont vraiment sniffé la bonne affaire, je pense, de pouvoir avoir des dépôts d'où les gens vont installer leur logiciel, voire même d'obliger tout le monde à passer par là à terme. Il n'y a pas de...
C'est une chose qui titille Mac également, hein, chez Apple, c'est d'offrir cette possibilité d'installer du logiciel depuis Internet. Mais du coup, on va pouvoir bloquer tout autre type d'installation et s'assurer que les utilisateurs ne passeront que par son store.
D'ailleurs, alors, c'était le cas, là, parce que là, ils bloquaient les licences, les logiciels sous licence libre.
Oui, Apple a eu un peu marche arrière, enfin, il y a eu quelques soucis.
Ils avaient autorisé VLC, ou en tout cas, ils l'avaient laissé faire, et puis finalement, ils l'ont retiré. Hein. Je crois qu'on en est là.
Il y avait des problèmes sur les licences. Et donc, la Microsoft s'ouvre à l'open source, youpi, c'est super, mais on découvre que c'est uniquement les licences de type Apache BSD, et que la GPL, donc avec les principes de copyleft, par contre, ils dégagent, ils n'en veulent pas.
Vraiment, c'est une bonne qualité du Journal du Net. Il y a eu beaucoup d'articles sur cette histoire, mais peu qui faisaient remonter justement cette différence. Microsoft aime le libre quand ça l'arrange, et ils n'aiment pas le copyleft. Le copyleft, c'est cette clause pernicieuse, hein, de leur point de vue, qui oblige, si vous reprenez un logiciel libre sous copyleft, à vous-même faire, d'un logiciel qui l'engloberait, de le faire sous le copyleft lui-même. C'est ce qu'ils appellent une licence virale, alors qu'en fait, c'est simplement, on vous donne quelque chose, mais on vous demande de le redistribuer sous les mêmes clauses.
Voilà, donc ça s'inscrit dans un mouvement où on a pas mal comme ça de grosses boîtes qui sont intéressées par l'open source, dans le sens open source vraiment, mais qui en gros marquent une défiance très importante par rapport au copyleft. Oracle l'a fait avec OpenOffice et on a d'autres exemples.
Donc c'est un petit peu inquiétant, hein. J'avoue que ce système de store, hein, c'est des bonnes idées techniques, mais c'est une prise de contrôle de l'utilisateur et de son matériel qui fait vraiment peur. Alors ils ont l'air d'être gentils en plus, hein. Les logiciels qui passeront par le store ne devront donner que 30% à Microsoft, et si jamais vous dépassez 25 000 $ par an, ça descendra à 20%. Ouais, quelle bonté d'âme, franchement, sont des anges, parce que bon, effectivement, ils font ça en opposition à Apple, qui lui ne donne pas ses 10% de marge en plus quand vous dépassez.
Pas de remise chez Apple, voilà.
Et non, c'est moche, mais bon.
Numérama, l'April demande au Parlement européen de rejeter l'ACTA, donc un article de Julien L. Donc on parle de nous. On avait parlé de l'ACTA déjà, hein, donc c'est un accord commercial anti-contrefaçon qui se négocie plus ou moins en secret depuis un bon moment, et nos députés européens sont censés dire oui ou merde, c'est-à-dire sans pouvoir discuter le contenu. Et dedans, il y a des tas de choses qui dépassent très largement ce qu'on pourrait attendre d'un accord commercial, notamment il y a des questions de droit pénal. Et on retrouve des éléments donc, qui avaient été discutés il y a quelques années, notamment au moment de la loi de DAFSI, sur l'interdiction de contourner une mesure technique de protection, ou DRM en anglais.
Oui, en gros, vous avez un verrou sur votre logiciel, eh bien, vous n'avez pas le droit de regarder de près ce verrou, même si vous aviez de bonnes raisons, faire des archivages, des backups, ou faire de l'interopérabilité, c'est-à-dire le fondre avec un autre logiciel, récupérer des données.
Tout simplement lire un DVD sous GNU Linux, ce qui est toujours illégal en France.
Mais toi, t'es un sale pirate, hein, c'est ça, hein. C'est ce que tu fais, j'en suis sûr, hein. C'est interdit.
Bah, voilà, et donc, bon, ce qui est intéressant, c'est qu'on parle bien de mesures de contournement de protection sur des choses qu'on a légalement acquises. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous utilisez un GNU Linux, vous lisez le DVD que vous avez acheté avec vos sous, vous êtes dans l'illégalité. Et bah, l'idée, c'est qu'il y a toute une série comme ça, ouais, avec cette question d'interopérabilité que tu as citée, où on va bloquer les utilisateurs et leur interdire de le faire. C'est-à-dire qu'on est de moins en moins propriétaire de ce qu'on va acquérir. On va payer pour l'avoir, mais on ne sera pas propriétaire dans le sens où on n'aura pas le droit de faire tout ce qu'on veut avec.
Et là, ce qui est rageant, et l'April s'offusque de cette situation, c'est que non seulement c'est déjà dans les droits nationaux, pour beaucoup de pays, il me semble que la France c'est déjà le cas, mais c'est que là, ça va monter au niveau international, et le droit international va sanctuariser cette idée que les DRM, eh bien, non, on n'a pas le droit d'y toucher, vous n'avez pas le droit de regarder, et même pour des DRM idiots, hein, c'est ça qui est intéressant, même un DRM super débile qu'un enfant de 2 ans pourrait contourner, eh bien non, si vous le contournez, vous êtes dans l'illégalité, et vous risquez des amendes et de la prison, il me semble même. C'est un peu moche. Ce que j'espère, c'est que le Parlement, qui a quand même des idées de concurrence libre et non faussée dans la tête, bah là, ils se rendent compte que justement, c'est bien de ça dont il s'agit. Il ne faut pas permettre à des gens de bloquer l'interopérabilité et les usages.
Alors, article suivant, donc un article du Nouvel Économiste, la propriété intellectuelle, l'open source, un article de Lilia Tiensan.
Oui, c'est pas facile à donner comme nom. On a regardé un peu, ça a l'air d'être un gars super intéressant,
alors,
super intelligent.
Alors, article très bien écrit et très bien documenté, donc on a parfois des articles un peu approximatifs, n'importe quoi, etc. Là, on a quelqu'un qui connaît fort bien son sujet.
Et moi, je pense qu'il a pas fait vraiment d'erreur dans l'article, hein, et pourtant, vu la taille, il devrait y avoir des coquilles qui restent, un minimum. Non, franchement, très très bon article qui explique le logiciel libre, le mécanisme des licences, et ça commence très très bien d'ailleurs, on applaudit.
Voilà, sauf que ça tourne un peu au vinaigre par la suite.
Oh. Non, là t'es négatif.
Alors déjà on note la notion, l'utilisation du terme propriété intellectuelle qui nous fait toujours pied assez fortement, même si effectivement en France il existe un code de la propriété intellectuelle, donc c'est quand même une notion qu'on peut pas nier, qui existe. En revanche, il explique tous les principes de l'open source, comme il dit, et du logiciel libre. Et après ça, il va parler côté entreprise et des dangers, etc. Et gentiment, il introduit la notion de brevet logiciel.
Oui, parce qu'il part, mais vraiment un article bigrement intelligent, je le recommande pour ça. Il nous enfume, mais en beauté, ça part avec le logiciel libre utilise la propriété intellectuelle, en fait il utilise le droit d'auteur, donc pour lui c'est une des composantes, et petit à petit il nous détourne l'attention, il explique que la différence propriétaire libre c'est sur les licences, il a raison, et non vraiment, bravo. Il arrive à, oui mais les entreprises ont besoin de valoriser leur contenu, leur propriété intellectuelle, et il y a une meilleure manière que le droit d'auteur.
Voilà, et puis on passe d'une vision de l'activité économique où l'entreprise vend des biens et des services, donc elle est dans l'activité économique, à une entreprise qui capitalise et qui va finalement faire du commerce de brevets, et donc être dans de l'activité capitalistique sur le savoir, etc. Ce qui n'a finalement plus grand chose à voir et qui sent super mauvais en fait.
T'as dit le mot, hein, brevet, hein. C'est ça en fait. Il dérive petit à petit, mais il reste dans la propriété intellectuelle. Donc du droit d'auteur au brevet, les entreprises peuvent capitaliser là-dessus. Moi j'applaudis à l'article.
Vraiment, ouais, très bien fait, mais super néfaste.
Ah mais incroyablement néfaste, moi je le recommande pour ça.
Alors, article suivant, donc c'est le blog associatif Essayer la liberté par Denis Lebioda. Donc, bon, bah, là-dessus, on va passer vite fait parce que c'est juste un petit article de blog pour citer une nouvelle affiche qu'on vient de sortir à l'April, donc ça fait plaisir.
C'est une nouvelle. Oui, mais enfin, c'est repris sur la Ligue de l'Enseignement, c'est pas rien de ce point de vue-là. Donc, ça fait toujours plaisir.
Ensuite, Le Soleil, les migrations profitables avec des logiciels libres par Pierre Asselin. Donc, Le Soleil cite québécois.
Qu'on reprend sur une vieille histoire, il y a des administrations québécoises qui sont en train de migrer des logiciels. Malheureusement, ils restent à Microsoft et c'est beaucoup, beaucoup d'argent qui est en jeu. Et là, l'article est pas mal parce qu'il reprend des exemples dans le monde et notamment en France pour dire que non, on peut migrer, on peut économiser beaucoup d'argent en migrant vers du logiciel libre.
Ouais, ce qui est intéressant, effectivement, c'est qu'il aligne toute une série de chiffres issus d'expériences menées par différentes administrations ou entreprises. Alors, bon, évidemment, le logiciel libre, c'est pas qu'une question d'économie et puis il y a effectivement des situations où ça coûtera pas moins cher. Ça a toute une série d'autres avantages, mais la question des gros sous vaut quand même son pesant de cacahuètes.
Surtout en période de crise, hein, les gouvernements ils doivent y regarder de près. Hein.
Voilà, donc le ministère de la Justice finlandais, donc, qui a fait migrer 10 000 postes sur OpenOffice, a constaté donc, une économie de 4,5 millions de dollars, plus de la moitié de la facture. Donc la moitié, c'est à peu près également ce que la gendarmerie annonce au niveau de ses réductions. Gendarmerie qui est passée carrément à GNU Linux et évidemment tous les logiciels libres derrière. Alors, on ne va pas tout citer, mais en tout cas, voilà un article intéressant de ce côté-là, avec toute une série de remontées d'expérience et avec du chiffrage sur les économies que ça a permis de faire.
J'aime bien cette idée, hein. On économise 50% du coût total quand on passe à du libre. J'aimerais bien que ce chiffre reste.
Article suivant, Finière, Gilles André, directeur général de Polyspot, donc une interview menée par la rédaction.
Donc un article qui met en scène Gilles André, un gars bien intéressant.
Bah alors encore une question de logiciel libre, en tout cas d'open source, comme ils disent dans le monde de l'entreprise, et avec ce côté où là on a affaire manifestement à une boîte qui veut surfer sur la vague, qui dit que bah, l'open source actuellement a le vent en poupe et qu'ils ont fait des tours de table mirifiques, blablabla.
Ça commence très bien, l'article, vraiment il est bien, il introduit la transparence, le fait que les licences libres permettent de tester des choses, ce qu'on fait pas avec du propriétaire. Propriétaire, ça nous enfume, les directeurs vont choisir la solution, puis finalement, ils vont cacher les échecs. Là, on a de la transparence, on a des coûts qui sont bien meilleurs, et surtout, il y a une progression du libre et du mouvement du libre de 20% par an. En période de crise, c'est mirifique.
Oui.
Donc 20% par an. Mais moi, ce que j'en retiens, c'est que l'article, là aussi, dérive tout doucement et que finalement, ça ressemble à « donnez-moi de l'argent » parce qu'il faut investir dans Polyspot, hein, dans cette entreprise. Et à 20% par an, là, c'est une affaire.
Alors, je n'ai pas tout à fait compris ça comme ça, mais en tout cas, ce qui est un peu bizarre, c'est que l'intervieweur dit que Polyspot n'est pourtant pas un éditeur open source. Et la réponse est assez alambiquée. Donc, on a l'impression qu'il joue sur l'ambiguïté et qu'en gros, il se lançait dedans. Donc, du coup, ça donnait confiance aux investisseurs, etc.
Tout naïf que tu es. Ils font des levées de fonds et ils veulent de l'argent. Donne-leur de l'argent. Il y a 20% à la clé. Tu te rends pas
d'accord.
Compte.
Bon, bah, écoute, je vais faire ça avec mes économies, je pense.
Oui, c'est indispensable. Donc pour finir, ben, on reprend en fait un thème de la semaine dernière qui est remonté cette semaine. Simplement, ben, c'est une anecdote, mais c'est un peu étrange. Des sites algériens qui parlent du logiciel libre. Donc on n'a pas l'habitude. Celui-ci se nomme Liberté Algérie. Le logiciel libre célébré en Algérie Média de Monsieur El Bey. Donc c'est un article qui est pas mal, qui parle un petit peu de sécurité du logiciel libre, le fait qu'on est indépendant, des choses de ce type-là.
Un article court hein, qui reprend des choses qu'on connaît déjà.
Mais ce qui est intéressant, c'est que c'est un article algérien.
Actuellement, grosse poussée de sujets logiciels libres dans la presse algérienne en ligne.
Voilà, moi je me demande, est-ce qu'ils ont libéré des journalistes il n'y a pas longtemps? Ils leur ont permis de parler, je ne sais pas. Il y a eu un accès à Internet.
Peut-être pas les autres avant, non?
Ou c'est les Tunisiens qui sont déplacés, parce que les Tunisiens avaient fait une poussée de logiciels libres il n'y a pas très longtemps. Mais très bien, hein. On va voir si ça continue. Dans ce sens-là, moi j'aimerais bien.
Ok, bon, c'est fini pour cette semaine, on se retrouve la semaine prochaine.
Voilà,
et on fait quoi?
Eh bien, on va faire la semaine 50.
Oh wow, incroyable.
Bon, à la semaine prochaine.
Ouais, salut.
C'était la revue de presse de l'Association pour la promotion et la recherche en informatique libre, l'April, proposée par Luc Fievet et Manuel Charpentier. La revue de presse de l'April, c'est aussi dans Divergence Numérique, tous les jeudis à 12h30 et 17h30.